Avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
Le plus de la grande matinale, deuxième rendez-vous de la semaine. Nous sommes mardi, vous le savez, tous les mardis, nous avons rendez-vous avec coach des Muller. On va s'intéresser aujourd'hui à toujours à la création d'entreprises, mais nous allons entamer le chapitre de la SAS. Bonjour coach. J'avais oublié d'ouvrir le micro de coach. Pardon coach, ça y est, je pense qu'il est ouvert.
Bonjour
cette
Phil.
Cette fois-ci, les auditeurs peuvent vous écouter. Alors je rappelle que vous pouvez également réagir en nous appelant au 0155 0758 00 en direct, bien évidemment. Ainsi, vous avez des questions à poser, vous êtes créateur d'entreprise, n'hésitez surtout pas. Nous ne sommes pas tout seuls coach, oui. Madame Alice Luton est à côté de nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors, je rappelle donc que vous êtes titulaire d'un master de droit public, hein, juriste conseil auprès des collectivités territoriales. Vous travaillez auprès des élus locaux. D'ailleurs, il y a les élections qui arrivent bientôt. Vous êtes spécialisé donc dans la réglementation de la publicité, hein, la place des panneaux publicitaires dans l'espace public. Donc, on va en parler. Coach, d'abord, pour commencer, on va s'intéresser aux organismes habilités à recevoir des apports en capital social, hein, pour revenir à notre SAS.
Tout à fait Phil, il faut savoir que quand on crée une société, on doit en amont déterminer le capital social qui peut être à la fois soit en numéraire, qui dit numéraire, c'est-à-dire l'argent liquide, vous faites un virement ou vous déposez un chèque de banque, soit un apport en nature. Donc pour l'apport en numéraire, vous êtes dans l'obligation de fournir une attestation de blocage de capital. Et ce blocage-là peut s'effectuer auprès des organismes...
Expliquez-nous plus simplement un capital de blocage, c'est ça ?
En fait, il faut savoir que quand on crée une société, on décide aujourd'hui, on dit mon capital social va être de 10 000 euros.
D'accord.
Voilà, donc vous avez décidé d'investir 10 000 euros au sein de votre société et c'est ce qui s'appelle le capital social. Cet argent-là, il faut le bloquer quelque part en attendant la finalisation de la création.
Le bloquer à la banque ?
Soit à la banque, c'est pour ça qu'on parle d'organisme, soit à la banque.
Certainement pas sous l'oreiller.
Non, du tout. Donc, on se dirige vers le banquier. Bien sûr, en amont, vous devez déjà établir les statuts. Les statuts, je vous conseille encore une fois de faire appel aux personnes habilitées, aux sociétés habilitées, à savoir des cabinets d'expertise comptable, soit un notaire, soit un avocat. Donc, il est important d'aller voir vraiment les professionnels du métier. Il est vrai que sur Internet, vous pouvez tomber sur des modèles des statuts. Il faut savoir que certains statuts ne sont pas à jour et ne correspondent pas à vos attentes. Le fait d'aller voir un juriste, d'aller voir un cabinet d'expertise comptable, vous aurez le conseil qui va avec et adapter votre situation par rapport aux actes juridiques. Ça, c'est vraiment très important. Donc, on se dirige soit à la banque avec les statuts déjà signés entre les associés,
ouais,
ou soit à la caisse de dépôt et consignation, ou soit vous pouvez aller voir le notaire. À partir de là, ils vont vous fournir une attestation justifiant que la société, les associés ont bien réellement mis en banque dans un compte en cours de constitution de la société 10 000 euros. Voilà, c'est ce justif-là qui va être nécessaire pour l'immatriculation auprès du greffe.
Alors, si je comprends bien, la loi exige véritablement un capital minimum. Si vous n'avez pas ce capital minimum, vous commencez pas, vous faites rien.
Il faut savoir que le capital minimum pour tout ce qui est SAS ou SARL, il n'y a plus de minimum à verser. D'accord ? Mais il en va de soi quand on démarre une activité. On ne peut pas se dire j'ai 1 euro, 2 euros en poche, je vais lancer mon activité. Il faut savoir que les fournisseurs et les tiers qui sont autour de vous, qui vont avoir des échanges avec vous, se basent en général sur le capital en se disant une société est solide par rapport à son capital social. Donc il est important quand même d'avoir un certain montant. Voilà, à l'époque, vous vous rappelez, c'était minimum 7 500 euros. Ce minimum a été retiré. Mais je conseille toujours aux personnes qui ont envie de lancer une certaine activité, de faire en sorte d'avoir un capital digne de son nom pour qu'on puisse être pris au sérieux auprès de différents partenaires autour.
On va justement poser la question à Madame Luton. Est-ce que ça a été votre cheminement justement lorsque vous êtes lancée ?
Alors moi, l'entrepreneuriat n'a pas été un réflexe naturel chez moi puisque j'ai d'abord été pendant 12 ans fonctionnaire.
Et de ensuite, l'État.
Voilà, c'est ça. Donc ensuite, je me suis lancée à mon compte, alors par facilité d'abord en tant qu'auto-entrepreneur, hein, beaucoup commencent comme ça. Et le chiffre d'affaires grossissant, je suis passée effectivement d'abord profession libérale et là, plus récemment, en SAS avec un dépôt de capital, donc obligatoire, oui.
Alors, ce qui vous aura donc influencé, c'est le chiffre d'affaires grossissant. Sinon, s'il était en régression, vous n'aurez peut-être pas été à ce niveau.
Voilà, c'est ça, exactement. Oui, oui. Je souhaite me développer et donc la SAS était la formule adaptée à ma profession, à ma structure.
Alors vous êtes dans le monde de la publicité, c'est bien cela, donc vous travaillez hein, pour la réglementation, notamment les places des panneaux publicitaires dans c'est l'espace ça. Public, ça veut dire que le secteur public est toujours aussi près de vous, c'est-à-dire que même si vous êtes auto-entrepreneur, mais vous travaillez toujours avec le public.
Moi, je suis prestataire pour des collectivités territoriales, donc je travaille principalement avec des élus, donc avec les maires. Hein. Donc là, on est en pleine période d'élection municipale, donc j'ai un peu moins de réunions. Mais voilà, je conseille d'un point de vue juridique les élus locaux sur la place des panneaux publicitaires qu'on voit régulièrement quand on déambule en ville. Comment faire en sorte que ces affichages soient le mieux intégrés possible.
Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer le mécanisme justement par rapport à ces panneaux publicitaires dans l'espace public parce que des fois, on assiste à de l'affichage sauvage, oui, même des élus, oui. Parfois. Expliquez-nous comment ça se passe.
Alors, si vous voulez, on est en France, donc il y a des réglementations pour à peu près tout. Et effectivement, il y a des réglementations, donc c'est le code de l'environnement, pour les dimensions de ces panneaux publicitaires dans l'espace public. Donc, est-ce qu'ils peuvent faire 8 mètres carrés, 12 mètres carrés? Est-ce qu'ils peuvent être lumineux? Est-ce qu'ils peuvent être numériques, des écrans télé? Donc, tout ça, c'est une réglementation qui est un petit peu méconnue. Hein. On est sur un droit qui est une niche. On est très peu en France à le pratiquer. Et je conseille les élus locaux sur comment, on va dire, interdire les panneaux publicitaires à certains endroits de leur ville. Donc, par exemple, à proximité d'une église, souvent, c'est malvenu d'avoir un grand affichage. Et au contraire, où on peut davantage développer la publicité.
Alors, aujourd'hui, on assiste à la présence d'écrans. D'écran aujourd'hui, c'est-à-dire que la publicité papier tend à plutôt à disparaître. C'est on ça. Préfère mettre en place des écrans si c'est voulu.
Alors, c'est un sujet qui cristallise, qui déchaîne les passions parce qu'on a des gens qui sont complètement anti, on va dire, numérique, qui pensent que c'est consommateur d'énergie et mauvais pour la planète. Et au contraire, on a plutôt les pour le numérique qui voient un signe de modernité. Donc moi, mon travail, ça va être de trouver des solutions de manière la plus sécurisée possible juridiquement en fonction de la commande politique.
Alors coach, pour revenir à notre SAS, hein, notre dossier du jour, quel est l'organisme habilité à recevoir les apports hein, du capital? On en parlait il y a quelques instants. Alors aujourd'hui, quelle est la qualité d'un bon dirigeant? Justement, lorsqu'on a lancé cette SAS, quels sont les rudiments justement qu'on devrait avoir pour mener à bien cette entreprise?
En fait, au niveau de la SAS, le dirigeant, on le nomme déjà le président ou la présidente. Donc, cette personne qui va être là à la tête de l'entreprise doit absolument avoir la qualité première, à savoir être une bonne gestionnaire. Mmh. Parce que quand on est dirigeant, on est censé...
Tout le monde n'est pas bon gestionnaire, coach.
Oui, quand on n'est pas bon gestionnaire, il faut, dans ce cas-là, s'entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire que Surtout quand il s'agit de SASUS, société à action simplifiée unipersonnelle, c'est-à-dire que vous êtes seul à diriger l'entreprise, il faut absolument à la fois que vous soyez compétent dans le domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer, mais de l'autre côté, il faut aussi anticiper. Donc un bon gestionnaire, c'est il vit au présent et il anticipe absolument le futur. Et si vous vivez au jour le jour, à un moment donné, vous allez être surpris parce qu'il y a des échéances à payer, à savoir par rapport à l'État, tout ce qui est TVA, les différentes taxes, la contribution foncière des entreprises. Il faut anticiper qu'il peut y avoir des décalages de paiement de la part de vos différents clients. Donc c'est toutes ces choses-là, c'est important de maîtriser à minima. Si c'est pas le cas, il faut vous entourer d'un cabinet d'expertise comptable où l'expert comptable doit jouer son rôle, vous accompagner dans cet apprentissage-là. Parce qu'il est vrai, à un moment donné, on commence tous. Quand on commence, on maîtrise pas tout. Donc, il est important d'avoir un bon conseil autour.
Mais on peut aussi, ça peut arriver, se faire flouer, par cet expert comptable qui sait que vous ne connaissez pas les rudiments de la comptabilité. Et ma foi, vous retrouvez dans des situations assez difficiles.
Vous savez, je ne dis pas que tous les experts comptables sont exceptionnels, mais la majorité, ils font consciencieusement leur travail. Pourquoi ? Il faut savoir que vous pouvez attaquer juridiquement un cabinet d'expertise comptable qui n'a pas fait son travail comme il faut. Il faut savoir qu'on est assuré dans un cabinet d'expertise comptable un minimum sur 500 000 euros au cas où il y a préjudice. Donc ça, c'est important. Souvent, vous tombez sur des cas, parce que le problème, c'est qu'on appelle tout le monde comptable. Il y a certains cabinets, non cabinets d'expertise comptable, qui font le travail, mais malheureusement, de comptabilité, ils n'ont pas le diplôme, ils n'ont pas l'autorisation de le faire, et parce qu'ils font des prix attrayants, les gens préfèrent aller voir ce genre de cabinet-là, mais en cas de défaut de conseil ou le travail est mal fait, malheureusement, vous ne pouvez pas vous retourner vers ce personnel parce que le dirigeant est le seul responsable. Ça, c'est vraiment ce qui arrive le plus souvent. On court après les petits prix. Au final, vous n'avez pas la qualité de service qui va avec parce que c'est normal. Une infirmière n'est pas docteur. Voilà, si vous devez aller voir le docteur, il faut aller voir le docteur qui donnera des directives pour que l'infirmière vous soigne. Vous voyez un peu la différence, c'est-à-dire que quand vous allez voir un simple comptable, c'est pas un expert comptable. L'expert comptable, il vient, c'est comme l'ingénieur, voilà, il fait le nécessaire.
Voilà, merci. On va marquer une petite pause et on revient juste après la suite de Parlons Entreprise avec Coach Desmuller. Ne bougez pas.
Africa. Le plus de la grande matinale avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
Parlons entreprise, deuxième partie, nous sommes avec Coach Desmuller, comme tous les mardis sur Africa Radio. On parle donc de la création d'entreprise et aujourd'hui, notre dossier du jour, la SAS. Donc voilà, on va prendre Marcus qui a justement une question technique à poser à notre coach. Bonjour Marcus.
Oui, bonjour Phil, bonjour coach, bonjour les auditeurs.
Bonjour, nous vous écoutons.
Je voulais vous poser la question, par exemple, sur un héritage parental, peut-on créer un projet immobilier en passant par un SAS ? Est-ce que c'est possible ?
Dans
la mesure qu'un prêt est sollicité et que vu le projet qui est peut-être un projet immobilier après à mettre en location, est-ce que c'est possible d'avoir des prêts et que la location rembourse et les frais du crédit. Est-ce que c'est possible ? D'autant plus, nous, les Afro-descendants de la Caraïbe, quand nous avons des projets sur les Antilles, et peut-être ça peut même se retrouver pour les Africains qui vivent ici, c'est que les banques ici ne prêtent pas de l'argent aux Dominicains pour pouvoir faire des projets aux Antilles. On ne connaît pas les raisons. Je pense que ce problème peut être aussi valable pour les Africains. Et que, bon, c'est vrai, bon, on a des projets, on a envie de créer des choses, mais bien souvent, nous sommes confrontés à des problèmes au niveau bancaire, se situant dans l'Hexagone.
Alors, Marcus, permettez à Coach Day de vous répondre question par question, parce que vous avez enchaînement de questions. Coach, on vous écoute.
Donc, je voudrais savoir, vous avez un héritage, c'est-à-dire que vous avez de l'argent qui vous revient, à savoir combien, déjà, c'est ça ? Vous avez combien en héritage ?
J'ai un héritage de ma grand-mère,
oui,
de mes parents aussi, mais l'idée était de créer, avec mon beau-frère, un système de je ne sais pas comment on dit ça, mais peut-être un SAS, c'est-à-dire de créer et des immeubles.
D'accord.
Et de le mettre en location.
Excusez-moi, au fait, alors, excusez-moi, ma question est simple. Est-ce que c'est un héritage financier ou ce sont des biens que vous avez hérités? C'est déjà ça, il faut qu'on sache.
Je pense qu'il s'agit des biens. Des biens de parents.
Vous avez des biens, donc vous...
C'est une valeur, mais dans la valeur, peut-être l'idée d'un projet qui est de créer un SAS immobilier et le mettre en location, solliciter un prêt auprès des banques pour pouvoir faire avancer le projet. Mais dans l'idée, c'est que une fois les appartements seront loués, cela rembourse le crédit. Mais le problème qu'il y a, c'est que même moi, ici, à plusieurs fois, j'ai tenté certaines choses et nous sommes confrontés à ce problème que les banques, ici, ne prêtent pas de l'argent pour des projets à l'extérieur de l'Hexagone pour dire que nous le faisons aux Antilles. Ça, on ne nous prête jamais. Donc, on ne connaît pas les raisons. Bon, d'un côté, bon, ça nous freine dans nos élans de perspective d'avancer, de créer, de pouvoir au moins avoir des choses qui nous permettent de vivre du mieux,
voilà,
et de contribuer à la société.
D'accord. En fait,
par rapport à ça,
allô.
Alors, Marcus, permettez qu'on vous réponde.
Marcus, parce que honnêtement, la situation ne me semble pas très claire. Parce que quand vous parlez de construire des immeubles, ça veut dire que vous avez hérité simplement des terres, que vous souhaitez faire un prêt pour pouvoir construire des immeubles et mettre en location, si j'ai bien compris.
Oui, c'est l'idée de ça.
Ah, donc c'est bien ça. Donc, à partir de là, vous connaissez... Allô, laissez-moi finir, s'il vous plaît. À partir de là, vous savez la difficulté des banques, comme vous dites si bien, de suivre les projets qui se réalisent à l'extérieur de l'Hexagone. Moi, ce que je peux vous conseiller, si vous avez plusieurs terrains, essayez de céder une partie. L'argent récolté de ces terrains-là vous permettront vous-même de autofinancer la construction de ces biens-là. Parce que si vous ne faites pas d'apport, le banquier ne va pas vous suivre. Par contre, si vous avez des terres, vous en avez une dizaine, vous en cédez 3-4, ça vous ramène... 500 000 ou 600 000 euros, à partir de là, vous pourrez engager, vous, le projet de construction. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. D'accord ?
Oui. Mais en fait, comme je posais la question, c'était de voir par rapport à l'idée du projet immobilier, c'est-à-dire construire, louer et la location remboursait aussi
le crédit.
Les frais du crédit.
Tout à fait.
Donc, c'est là qu'on est confronté à ce problème.
Mais il faut que la banque vous suive financièrement. Comme je vous dis, vous n'allez pas rester bloqué parce que la banque ne vous suit pas. Trouvez une solution de rechange que je vous ai proposée parce que malheureusement, vous ne pouvez pas obliger les banquiers à prendre le chèque et vous faire le nécessaire. Donc je vous conseille.
Mais comme je vous ai dit, le même problème que nous, les Dominicains, nous sommes confrontés, peut-être. Les Africains peuvent être...
C'est exactement le même problème. C'est exactement les problèmes. Donc, il faut trouver des solutions annexes pour essayer d'avancer quand même dans l'entrepreneuriat, d'avancer dans nos projets. Voilà. Voilà. Ça ne peut pas être un frein absolu.
Merci, on essaie de trouver d'autres solutions.
Merci beaucoup, Marcus, pour votre
appel. Merci à vous.
Vous pouvez aussi faire comme Marcus en nous appelant au 0155 07 58 00. N'hésitez surtout pas, même si vous êtes du côté d'Abidjan, vous nous écoutez sur 91.1 Africa Radio. Je rappelle que nous sommes également avec Madame Alice Luton, qui est donc titulaire d'un master de droit public, juriste conseil auprès des collectivités territoriales. Elle travaille avec des élus locaux, notamment avec des maires. Sa spécialité est la réglementation de la publicité, la place des panneaux publicitaires dans l'espace public. Et apparemment, il y a beaucoup de travail à faire, Madame Luton. Dites-nous la difficulté que vous rencontrez aujourd'hui.
Oui, en fait, le droit que je pratique est un petit peu méconnu. On est sur une niche, on est très peu en France à le pratiquer. Donc effectivement, ce n'est pas une matière qu'on apprend spécifiquement en fac de droit, mais qu'on apprend plutôt sur le tas. Moi, c'est au fur et à mesure de mes expériences professionnelles que j'ai croisé ce droit de l'affichage publicitaire. Et donc, actuellement, je rencontre, entre guillemets, une petite difficulté. Je cherche à étoffer mon équipe parce qu'on a beaucoup de travail et j'ai un petit peu de difficulté
à recruter. Il y a des auditeurs qui nous écoutent, hein, pour ces personnes qui sont dans une situation difficile ou qui cherchent du travail, c'est l'occasion.
Alors, de formation juridique.
Bah oui, il y a des juristes qui nous écoutent.
Voilà. Oui. Donc plutôt en droit de l'environnement, des titulaires de master que je pourrais tout à fait former à mes côtés.
Et vous pouvez quand même rappeler la difficulté quand même du métier, les demandes qui peuvent être promptes de la part de certaines mairies, qu'il faut répondre rapidement à la demande. Donc il faut quand même que les gens puissent savoir là où ils vont se lancer.
Ça, c'est comme, je vais dire, tout entrepreneur. C'est-à-dire, vous ne comptez pas le temps de travail que vous allez consacrer pour satisfaire la demande que vous avez. Si vous êtes pâtissier, vous avez une commande en urgence pour un gâteau de mariage, vous allez effectivement augmenter votre volume horaire de travail. Donc, dans mon métier, ça m'arrive aussi d'avoir des demandes urgentes donc de certains élus auxquels forcément je vais faire droit et donc ils vont m'amener peut-être à travailler de manière exceptionnelle un dimanche.
Un week-end.
Voilà. Mais ça, c'est peut-être le lot de tout entrepreneur. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un choix de vie que j'ai opéré qui me convient très bien. Mais il faut en avoir conscience.
Pas de repos même le dimanche.
Voilà, ça m'arrive quand même de temps en temps. C'est mes résolutions 2020, savoir un petit peu se reposer. Mais c'est le lot de chaque entrepreneur. On ménage pas notre travail.
Est-ce que la forte demande ne parvient pas à l'occasion justement des élections qui arrivent, période électorale, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez beaucoup de demandes et le travail, un volume qui est beaucoup plus important?
Pour l'instant, donc effectivement, le week-end prochain, ce sont les élections municipales. Donc, les élus sont consacrés plutôt à leur campagne. Donc, dans mon travail, c'est une petite période, entre guillemets, de calme. En revanche, une fois que les prochaines équipes vont arriver, donc sans doute vers mi-avril, là, ça va repartir sur les chapeaux de roue. Donc, il y aura du travail plutôt après les élections.
Alors, quels sont les types de profils que vous cherchez justement à recruter, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui ont pris l'émission en marche? Quel type de profil vous cherchez justement à recruter parce que vous avez beaucoup de travail en ce moment?
Oui, alors plutôt des juristes, donc plutôt en droit de l'environnement de préférence, mais même une formation juridique générale, comme je peux former la personne, ça marche tout aussi bien, ou plutôt aussi des urbanistes.
D'accord. Voilà. Alors, c'était un secteur d'activité qui
particulier.
Alors, coach, on va revenir à notre SAS, parce que c'est notre dossier principal du jour. Quel est le type d'imposition, justement, pour cette SAS?
Par rapport au SAS, il faut savoir que...
Parce qu'il ne faut pas l'oublier, les impôts qui nous guettent toujours.
Oui, toujours, les impôts pour le bien commun. Donc, il faut toujours le rappeler, parce que souvent, on se plaint des impôts, mais il faut savoir, c'est grâce aux impôts et charges sociales que nous payons
même
tous.
Même si on les aime pas...
Si on les aime pas, chacun en profite à un moment donné. Parce que, je le rappelle souvent, quand on dit l'État, c'est nous. Il faut savoir que l'État, c'est nous, c'est tous les citoyens français qui résident en France, c'est ça... C'est nous l'État au fait, c'est-à-dire que les impôts, les taxes que nous payons, ça permet de payer les professeurs, les infirmiers, de payer les routes, de payer tous les fonctionnaires. Ouais. C'est toujours bon de le rappeler ça, parce que souvent on a l'impression qu'on donne l'argent dans le vide.
Mais pas qu'en France, coach, même partout.
Oui, mais partout en Afrique. Les taxes ont ce rôle-là à jouer. C'est pour ça que en Afrique, des fois, il y a ce déficit-là parce que les taxes sont mal collectées. Mmh. Parce que le jour où l'Afrique se mettra au niveau de la France, ça sera une bonne chose parce que sûrement on aura un service public de qualité. Mmh. Pour avoir un service public de qualité, il faut cotiser à la fois au niveau social pour avoir quasi gratuité au niveau soins médicaux et pareil pour tout ce qui est enseignement. Il faut que l'argent vienne de quelque part. Donc les entreprises créateurs de richesses permettent à la collectivité, à l'État, de se nourrir de ces taxes-là. Donc il faut savoir que pour les SAS ou SASU, l'imposition de base pour les SASU, c'est l'impôt sur les sociétés. Pour les SASU, vous avez la possibilité d'opter sur l'impôt sur le revenu, Si vous optez sur l'impôt sur le revenu, ça dure pendant 5 ans. Il faut savoir l'avantage d'opter éventuellement sur l'impôt sur le revenu, c'est si vous estimez que pendant les 3 voire les 5 premières années, vous allez être déficitaire, c'est peut-être intéressant parce que vous allez créer un déficit avec votre société. Et si votre conjoint de l'autre côté gagne bien sa vie, ça va venir en diminution de ce que votre conjoint gagne. Mais en général, l'imposition de base, c'est l'impôt sur les sociétés. Voilà, c'est l'IS au fait.
On va prendre cet auditeur. Allô, allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour, vous êtes en direct, c'est monsieur. Ah, qui a raccroché tout de suite. On va poursuivre notre questionnaire, hein, coach. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples d'apports en naturel, pardon?
En fait, il faut savoir que les apports en nature, en ce qui concerne les SAS, on est obligé de faire intervenir un commissaire aux apports. Donc, c'est à lui d'évaluer les biens corporels que vous apportez, au fait, pour votre entreprise. Voilà, par exemple, pour les sociétés.
Des biens corporels.
Oui, corporels.
Ma collection de chaussures, de costumes.
Non. Des biens corporels, au fait, on parle de matériel, de véhicules ou d'immeubles. Par exemple, pour les personnes qui souhaitent créer une société de transport, ils ont en privé leur camion ou bien un véhicule pour lequel ils vont faire le VTC. Ben, ils peuvent l'apporter en apport, en échange des parts liées ou des actions liées à la société. Mais pour éviter toute exagération, vous savez, vous êtes dans l'obligation de faire intervenir un commissaire aux apports qui est diplômé, qui va évaluer l'exactitude du montant du bien que vous apportez. Parce que vous pouvez dire, ben, mon camion coûte 30 000 euros, or, sur le marché, ce camion-là se vend 10 000 euros. Et vous allez mettre ça en capital et vous allez flouer un peu les tiers avec lesquels vous allez travailler. C'est pour ça qu'il y a cette obligation d'avoir un commissaire aux apports. Donc, j'ai bien dit, du matériel, véhicule.
Donc, on oublie immeuble. Les collections de costumes.
On oublie les collections de costumes, les chaussures des dames, les sacs à main. On met ça de côté. On peut éventuellement ramener un stock.
Ouais.
Là, ça compterait. C'est-à-dire, si vous êtes marchand de chaussures, vous avez vous-même, à titre personnel, acheté pas mal de marchandises, vous pouvez le ramener en apport au niveau de la société, donc on pourra l'évaluer. Mais si c'est vos costumes personnels que vous mettez qui n'a pas attrait à l'activité de la société, non, ça passe pas. Vous avez aussi la possibilité d'apporter des biens incorporels.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ?
Les biens incorporels, c'est tout ce qui est brevet,
d'accord,
marque, clientèle, fonds de commerce. Ouais, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, vous et moi, on souhaite s'associer, faire une entreprise ensemble, d'accord ? Mais moi, j'ai une marque qui fonctionne déjà très bien. En nom propre, j'étais auto-entrepreneur. Ben, on vient, ben moi, en échange, je dis, ben écoutez, monsieur Phil, moi, je ramène ma marque évaluée à 100 000 euros. Ben vous allez ramener 100 000 euros en numéraire, donc en espèces, en argent, en virement. Ça fait qu'on aura 50-50, mais vous avez ramené carrément de l'argent, mais moi j'ai ramené soit un brevet, soit ma marque, ou soit le fonds de commerce. Et c'est ça qui fait la différence. Mais il faut un commissaire aux apports pour évaluer avec exactitude le montant de votre apport.
On peut évaluer, je prends l'exemple du brevet, à une hauteur de 100 000 euros.
100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, 1 million d'euros. Bah, parce que quand vous prenez par exemple les brevets qui sont dans les systèmes de téléphone, les applications, c'est des choses qui valent des millions. Donc quand vous allez créer une société avec une personne qui a développé cette application-là, bah, automatiquement vous devrez lui donner des parts en conséquence par rapport à la valorisation de son application.
Voilà. Nous allons prendre cet auditeur en espérant qu'il est bien en ligne. Allô, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur. Monsieur, comment ?
Oui, bonjour à vos invités et
bonjour
à tous vos auditeurs.
Merci, bonjour.
C'est monsieur ?
Monsieur Francis.
Nous vous écoutons, monsieur Francis.
Oui, voilà, j'appelle parce que ce sera en... Je veux un peu joindre le précédent auditeur qui était monsieur Marcus, qui parlait d'un projet... hors de l'Hexagone. Moi, j'ai un autre projet aussi dans ce sens, mais est-ce qu'il n'y a pas de possibilité, si la banque ne peut pas financer, est-ce qu'il n'y a pas des organismes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous accompagner dans des projets hors de la France? Par exemple, moi, j'ai un projet dans l'élevage en Afrique et j'ai un projet déjà bien constitué, de l'achat du terrain à l'installation. jusqu'au marché et tout, les gains, en fait, le projet est déjà bien constitué. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité avec des organismes qui peuvent nous lever les fonds, nous aider dans ce sens? Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça? Est-ce que c'est possible?
En fait, il faut savoir, c'est vraiment la grande difficulté. Ici, en France, par exemple, il y a l'Agence française de développement, l'AFD, ils peuvent financer certains projets, mais en général, ils financent vraiment des gros projets et ils veulent quelques garanties. Par rapport au financement, c'est ce que je conseille souvent aux auditeurs, c'est déjà personnellement se préparer en conséquence. Quand on sait qu'on a un projet, ben, il faut à un moment donné se serrer la ceinture, mettre de l'épargne, mettre l'argent de côté pour pouvoir se lancer. Je veux citer par exemple la communauté chinoise. Vous savez que les Chinois, des fois, ils font pas appel aux banques, hein, c'est déjà entre eux. C'est-à-dire que les commerçants entre eux sont très organisés, sont capables de dégager des fonds en disant, ben, tiens, toi mets 10 000, toi mets 10 000, moi je mets 10 000 et derrière on peut constituer 100 000 à 150 000 euros et lancer un projet commun, ou soit la personne lance son projet, une fois que ça fonctionne bien, elle prend cet argent là elle le rend à la communauté. C'est surtout ça qu'à un moment donné la communauté afro devrait aussi développer, mais bien sûr pour le faire il faut du sérieux et de l'application, être honnête, à respecter ses engagements, parce que vous le voyez très bien, c'est normal à un moment donné pour que les banquiers français puissent vous suivre jusqu'en Afrique, ils n'ont pas de garantie. Je pense que vous serez à la place d'un banquier ici en France dire, ben moi j'ai une idée, on n'a aucune garantie que votre idée va fonctionner et que vous soyez aussi dans la capacité à rembourser. Donc pour ma part, les premiers financeurs doivent être les banques qui se trouvent en Afrique, parce que eux ils sont sur place, eux ils sont sur le terrain.
Ils ont en général beaucoup de liquidités, hein. Ils prêtent pas.
Voilà, ils prêtent pas et c'est ça qui est compliqué. Mais bon, voilà, il y a les systèmes annexe qu'on peut essayer de mettre en place, mais il faut du sérieux par rapport à l'entourage, parce que bon, si votre entourage ne vous soutient pas, c'est un peu compliqué. Au moment où ça va briller, ça sera les premiers à venir. Or, c'est au moment où on a besoin un peu d'argent, on a besoin d'un 1000 euros, d'un 500 euros, que les gens doivent faire le nécessaire et soutenir votre projet pour que vous puissiez aller de l'avant. Pour que demain, en Afrique, on puisse investir correctement, il faut des banques fortes en Afrique. Voilà, il faut développer le business, il faut développer les entreprises. Et malheureusement, on le sait, avec un banquier qui vous suit, normalement, c'est une bonne chose. Ça vous permet de pérenniser et de développer plus facilement votre entreprise.
Et il y a aussi, faut souligner également les associations. Il y a des personnes qui s'organisent de façon associative, justement, pour pouvoir accompagner des projets.
Tout à fait, tout à fait.
Et pour revenir sur l'Agence française de développement, l'AFD favorise beaucoup plus les États, parce que plus de garanties avec un État,
avec un État qu'avec un individu. Exactement. Ouais.
Voilà.
Bon, je disais, si je vous ai bien entendu, vous avez dit par exemple que l'AFP,
l'AFD,
l'Agence française de développement, c'est l'État, qu'il faut, eux aussi demandent des garanties. Quel genre de garantie, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on peut avoir demandé? Qu'est-ce qu'on peut demander comme garantie par rapport à une banque? Parce qu'une banque va peut-être avoir besoin, si vous avez un appartement ici, qui peut servir de garantie pour vous donner un financement, vous allez faire ce que vous voulez. Bon, l'AFP peut vouloir quoi comme garantie? Par exemple.
Coach.
Oui, excusez-moi. Oui, dites-moi.
L'AFD, quel type de garantie justement que l'AFD pourrait demander à un particulier, par exemple?
Un particulier, mais c'est parce qu'on a eu contact avec eux. Effectivement, il est difficile qu'ils puissent soutenir un particulier parce qu'ils, eux, ils financent vraiment des gros projets.
Des États.
Voilà, des États en général. Maintenant, quand vous êtes une organisation, c'est pour ça que peut-être qu'à un moment donné, il faut se regrouper pour que le projet soit conséquent. Au lieu de parler juste de un hectare, si vous parlez vraiment qu'on souhaite développer de l'agriculture au sein d'un grand village en Afrique, c'est ce genre de projet-là qui peut trouver écho, en fait, par rapport à eux. Eux, ils parlent vraiment de quelque chose d'énorme. C'est pas juste vous avez besoin de faire quelque chose au niveau poulailler, ils vont pas vous suivre pour ça. C'est pour ça qu'il faut absolument faire en sorte de fédérer un peu plus de monde dans ce projet-là pour pouvoir aller frapper à leur porte. Éventuellement même le maire de la ville où vous souhaitez installer ce projet-là, que lui il se porte un peu porteur du projet auprès de l'AFD, là ils peuvent vous écouter, mais à titre individuel comme ça, ça ne passera pas.
Ça va être
pas.
Très difficile.
Voilà.
Voilà. Oui, mais attendez, monsieur, parce que il y a des reportages qu'on suit dans les chaînes télévisées un peu partout, ou c'est l'ambassade de France, il y a des organismes français qui financent des projets en Afrique, on les voit. Je crois qu'il y a un secteur où... J'ai vu des reportages où l'ambassadeur de France au Cameroun, par exemple, a financé des projets. Ils sont allés visiter, on voit ça partout.
Mais et c'est pour ça que
localement, oui.
Ils font des projets, ils veulent rentrer, ils font des demandes de financement et on leur finance leur projet et ils rentrent et on vient de temps en temps les suivre et on voit comment est-ce qu'ils travaillent.
C'est pour ça que comme vous savez par exemple qu'il y a l'ambassade de France au Cameroun, ben, vous allez sur le site de l'ambassade de France, vous allez retirer un dossier et vous allez remplir faux. Il y a effectivement, ça peut être une réalité, mais vous savez qu'à un moment donné, il y a aussi de la politique, il y a beaucoup de communication. Donc voilà, si vous êtes tombé sur ça, essayez d'aller en ligne, regardez si vous avez la possibilité de retirer un dossier et voir les conditions de financement. Vous verrez un peu ce chemin-là qui peut être très très compliqué. Je ne souhaite pas vous décourager, mais il faut faire la démarche. Vous verrez que derrière, ben, des fois, ce qu'on a pu voir à la télé, c'est pas tristement la réalité.
Voilà, merci beaucoup. Il nous reste plus qu'une minute cinquante avant de se quitter. On va donner la parole à Alice Luton, hein, qui va nous rappeler justement, parce que bon, si on a la possibilité de permettre à certaines personnes qui nous écoutent d'obtenir un emploi, hein, notamment avec vous, rappelez-nous justement ce que vous désirez.
Alors, donc moi, je suis juriste en droit de l'affichage extérieur, donc la réglementation des panneaux publicitaires dans l'espace public. Et effectivement, je cherche à étoffer mon équipe, donc des titulaires de master en droit
d'accord.
de l'environnement.
Combien de personnes à peu près vous avez besoin ?
Une dizaine,
une trentaine
déjà. Ah non, quand même pas.
D'accord. À peu près, un chiffre ?
5 maximum.
Bon.
5 pépites, ce serait déjà
5
très bien.
5 pépites, ce serait très bien. Donc, appelez Africa Radio si vous voulez justement rentrer en contact avec Madame Alice Luton. Qu'est-ce qu'on peut dire pour se quitter, coach ? Est-ce qu'on a véritablement tout épluché ? Il nous reste 50 secondes. Qu'est-ce qu'on peut, on pourrait retenir en ce qui concerne la SAS ?
La SAS, il faut savoir que quand on crée une SAS, le dirigeant est soumis au régime général, le président, on lui fait une fiche de paye. Il n'y a pas cette notion de la sécurité sociale des indépendants où les gens avaient très mal à la tête à l'époque avec le RSI. Donc c'est une solution quand on est dans ce type de forme juridique. La gestion est simplifiée, il y a une fiche de paye comme un salarié, sauf qu'on ne bénéficie pas du chômage. Voilà.
Voilà, c'est également la fin de cette émission. Merci, coach. Est-ce que la semaine prochaine, ce sera un autre chapitre, toujours dans la création d'entreprise ?
La semaine prochaine, éventuellement, on pourra aborder toutes les idées reçues qui entourent le monde de l'entrepreneuriat. Donc, il y aura diverses questions qu'on pourra échanger.
Voilà, merci beaucoup, coach.
Merci, Phil.
Avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.